Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire avec une nouvelle invitée que je suis heureux d'accueillir devant ce micro. Alors c'est une femme controversée, provocatrice, intimidante. Elle est tout cela à la fois et elle ne s'en excuse pas. La polémique la stimule. Elle commente encore l'actualité avec mordant. Elle a passé 30 ans à Radio-Canada où elle a été la première femme à animer une émission d'affaires politiques. Enfin, au Canada, au Québec, on dit des émissions d'affaires publiques. C'est Madame B, comme on l'appelle souvent, vient de faire paraître ses mémoires aux éditions Plomb. L'ouvrage est sorti le 7 février dernier et ses mémoires ont pour titre « Une vie sans peur et sans regret ». Alors, lorsque le président François Mitterrand lui remet en 1993 la Légion d'honneur à l'Élysée, il lui dit « Vous êtes le trait d'union le plus vivant, le plus émouvant et le plus passionné entre la France et le Québec ». Denise Bombardier, bonjour et merci d'être aujourd'hui devant notre micro.
Ah, que vous êtes gentil, que vous présentez bien les choses. Merci infiniment. Et je dois dire que cette phrase du président Mitterrand, je la connais par cœur parce que c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a fait dans ma vie.
Alors, voilà. Denise Bombardier, je suis heureux de vous retrouver. On s'était rencontrés au salon, très beau salon, Livre en Vigne, au château du Clos de Vougeot, entre Beaune et Dijon. C'était, je crois, il y a 3 ou 4 ans.
Oui, c'est ça.
Pour le Dictionnaire amoureux du Québec, également aux éditions Plomb. Denise Bombardier, d'abord, vous avez un ancêtre Bombardier, j'aimerais qu'on parle de Joseph Armand Bombardier.
Ah, c'est pas mon ancêtre.
C'est pas votre ancêtre?
Son ancêtre à lui et mon ancêtre à moi. Il n'y a qu'un Bombardier qui est venu au Québec. On n'a qu'un ancêtre et c'est André Bombardier qui habitait Lille. En fait, il habitait une commune qui s'appelait Saint-Sauveur, qui est maintenant un arrondissement de Lille. Il a quitté au début du 18e siècle. Il est d'abord allé à Détroit. On était là, c'était pas les États-Unis, c'était les Français qui étaient là. Et il était soldat. Et puis, au bout de 2 ans, il est venu au Québec, qui était la Nouvelle-France. Et c'est comme ça qu'il a pris femme. Je crois que c'était une fille du roi. Et je suis sa descendante et j'en suis très heureuse. Et tous les Bombardiers. Il n'y a pas beaucoup de Bombardiers au Québec. Il n'y a pas beaucoup de Bombardiers en France non plus.
Alors, Denise, vous avez failli mourir à la naissance. En tout cas, c'est ce que votre mère vous a rabâché depuis votre, on va dire, l'âge de 10 ans.
Et finalement, bien avant.
Bien avant même.
Ah non,
alors,
bien avant.
Vous écrivez. Vous rapportez les propos de votre mère qui disait « Le docteur est allé te chercher en plongeant son bras dans mon ventre. Il m'a toute déchirée. » Alors vous-même, quand vous racontez l'accouchement de Guillaume, votre fils, que vous aimez profondément, vous-même, au moment de l'accouchement, vous aviez très peur de mourir. En plus, c'était un accouchement un petit peu difficile.
Oui, c'était difficile.
Douloureux.
Ça s'est terminé par une césarienne. Comme m'a dit mon gynécologue après, « Écoutez, Denis, c'est bien la seule chose qui est paresseuse chez vous, c'est votre utérus. » qui m'a dit. Mais oui, parce que ma mère, elle n'avait pas lu des livres de psychologie, je suppose. Et quand on se fait dire ça quand on est enfant. Mais elle me disait aussi qu'elle avait demandé, qu'elle pleurait dans sa chambre et que la religieuse est venue la voir. Elle lui a dit « Pourquoi vous pleurez ?» Elle a dit « Ma petite fille va mourir. » Et la religieuse a dit « Je vais aller la voir. » Elle est revenue et elle a dit « Votre petite fille ne mourra pas parce qu'elle a la vie dans son regard. Elle a la rage de vivre. » Et vous savez, je pense que d'une certaine façon, et j'ai eu un épisode que je vais tout de suite vous raconter, qui confirme ça. Un jour, j'ai interviewé Françoise Dolto. Elle ne me connaissait pas du tout. Enfin, elle m'avait vue à la télévision ici, mais c'est tout. À la fin de l'entrevue, elle m'a dit « Vous êtes un enfant prématuré, vous ?» Alors, je lui ai dit « Oui, puisque je suis née avant terme. » Elle a dit « J'en étais sûre. » parce que vous êtes une battante. Et j'ai compris que c'était vrai, je m'étais battue, en fait, pour vivre, et j'ai même été ondoyée. Vous savez ce que c'est,
l'ondoyée?
Oui, l'ondoiement, c'est quand il n'y a pas de prêtre pour baptiser. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça dans les règles. N'importe quel catholique pouvait baptiser l'enfant pour pas que l'enfant aille dans les limbes, voilà. Donc, on m'a ondoyée à l'hôpital. Ça a dû être une religieuse qui m'a ondoyée, voilà.
Quand on lit votre autobiographie, on comprend, notamment au début, mais même jusqu'à la fin, vous racontez ce dernier voyage avec votre maman à New York. Oui. C'est très émouvant. Cette mère qui s'est toujours posée en victime, ça vous incommodait énormément. On va parler un peu de cette famille. D'accord. Moi, je vous ai découverte dans cette autobiographie. Vous parlez de votre famille, justement, en disant, vous parlez de famille intoxicante. Et alors, j'ai relevé quelques... C'est page 170. Vous parlez d'une vie de famille où violence verbale, grossièreté, délire paternel et même menace de mort constituaient le seul univers émotionnel et affectif. Et de votre père, alors on va parler de votre père qui était employé à Air Canada, qui était radin, qui était anticlérical. De lui, vous écrivez « C'était un terroriste familial ». Et page 81... J'ai mes sources, hein, de mes attentions. Avec vous, je fais attention, hein, j'ai peur de me faire gronder. J'en étais arrivé à souhaiter sa mort, une haine qui me minait. Votre père, c'est un personnage terrible.
Oui, mais c'est le personnage contre lequel je me suis construite finalement. Je crois que beaucoup, et c'est là le mystère de ma propre vie. Comment il se fait que je n'ai pas écrasé, comme on dit au Québec, sous la présence de... Dès qu'il entrait dans la maison, dès qu'il revenait de travailler le soir, dès qu'il entrait, l'atmosphère était plombée. Parce qu'il était fou. Et je n'ai jamais cherché à savoir quelle était sa maladie pour vouloir nous tuer. Effectivement, dès qu'il avait bu, il buvait les fins de semaine.
Oui, parce qu'il buvait pas mal, la semaine. Oui.
Il buvait les fins de semaine. On disait qu'il était ivrogne. Et mes tantes, dans ma famille, on buvait aussi. Les tantes buvaient beaucoup. Hein. Elles étaient des ivrognesses. C'était des ivrognesses, comme on dit. Mais donc, l'alcool était très, très présent. Mais c'est sûr qu'il devait être habité par une angoisse épouvantable. Mais je n'ai jamais... Si j'avais dépensé mon énergie à essayer de comprendre pourquoi mon père était comme ça, je n'aurais pas pu me construire. Ce qui m'étonne de moi... Et je pense qu'en ce sens-là, ça explique pourquoi moi, je n'ai pas beaucoup je n'aime pas beaucoup les gens qui sont complaisants vis-à-vis les tyrannies de leur enfance. Parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Pour s'en sortir, il ne faut pas se dire « Ben oui, mais j'ai eu une enfance malheureuse. » Il y a beaucoup de gens, il y a même des enfants. Moi, j'avais une petite amie qui a fait 7 ans de psychanalyse après. Parce qu'on est restés amis, parce que ses parents l'aimaient trop, figurez-vous, elle. Donc, moi, mon père, il disait... Puis en plus, mon père, il sacrait, il utilisait les jurons québécois. Et c'était très violent. Il disait, mais Christ, je vais tous vous passer au couteau. On l'entendait. Il était au sous-sol, il aiguisait avec une meule, il aiguisait les couteaux. Je sais maintenant, parce que moi aussi, j'ai été analysée quand j'avais 20 ans, je sais très bien qu'on aurait pu se retrouver dans le journal le dimanche matin. Une famille a été passée au couteau par le père. Bon, il ne l'a jamais fait. Il ne nous a jamais battus.
Il n'a jamais abusé de vous sexuellement.
Mais non, les gens pensaient, ils disaient, ah oui, t'as eu un père terrible, c'est ça. C'était pas ça. Et j'ai jamais compris pourquoi. Et au fond, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Donc, quand je me promenais dans la rue, puis qu'on me disait à l'école que le divorce était juste pour les protestants, puis qu'on allait en enfer si les gens se divorçaient et tout, moi, je marchais dans la rue, j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans, et je cherchais un monsieur pour ma mère. Parce que j'étais sûre d'une chose, et c'est ça qui m'a sauvée. Parce que moi, les hommes de ma vie m'ont sauvée, les hommes que j'ai aimés et qui m'ont aimée ont fait ce que je suis aussi. Je me disais, je regardais, et j'étais sûre que tous les hommes étaient mieux que ma mère. Comment une petite fille de 8 ans peut penser ça dans un monde catholique où elle est... Donc, je voulais qu'elle le quitte. Et ça, j'en ai beaucoup voulu à ma mère. Je crois que jusqu'à la fin, je lui en ai voulu pour ça, de nous avoir fait subir ces scènes de folie toute notre vie. Moi, jusqu'à ce que je sorte de la maison, j'avais 19 ans, quoi. Hein, parce que je n'ai pas quitté... J'ai quitté pour aller me marier parce que c'était la seule façon rationnelle que je pouvais quitter la maison. Je n'osais pas laisser ma mère avec ce fou-là, quoi, quelque part. Alors donc, et c'est ça qui a fait que... Et après coup, je me suis rendu compte que le métier que je le fais, de la façon dont je le fais, mon père était évidemment... C'était un démolisseur du Québec. Il parlait du Québec, C-U-L. Lui, il voulait qu'on aille à l'école anglaise. Pourquoi? Parce qu'il y avait, à ce moment-là, il n'y avait seulement que deux systèmes scolaires, anglais et français. Donc, français, c'était catholique, puis les anglais, c'était les protestants. Alors, donc, il voulait qu'on aille... Il ne voulait pas qu'on aille dans l'école catholique. Et ça, c'est le seul combat que ma mère a mené et qu'elle a gagné. Donc, après ça, il n'a jamais su en quelle classe on était. Il ne m'a jamais... Il s'adressait pas à nous, il s'adressait à la cantonade. Ma mère, il l'appelait Hey. Quand il voulait parler à ma mère, il disait Hey. Et moi, il ne m'a jamais prénommée. Et j'ai choisi un métier où tout le monde sait mon nom.
Et même lorsque vous vous mariez, je crois que c'est avec Jacques Lamontagne, oui, dans la Limousine, vous racontez ce trajet de 16 kilomètres, oui, pendant lequel vous ne vous dites rien.
Mais d'ailleurs, non, on ne s'est jamais parlé.
Oui. C'est terrible, ça aussi.
La seule chose que je lui dis, c'est t'as un beau costume. Il m'a dit « je vais mourir dedans ». C'est tout ce qu'il m'a dit. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Et à la limite, il ne savait pas trop le nom de celui que j'épousais, voyez-vous. C'est très, très étrange. Très étrange. Et il est parti avec son mystère, finalement.
Et vous écrivez aussi, page 45, « La honte, Constance de mon enfance ».
Oui. Oui, parce que j'adorais mes tantes, qui étaient les sœurs de ma mère. Quand je vous parle de mes tantes, c'est toujours du côté maternel. Mais ces femmes-là buvaient aussi. Mais sacrées comme des hommes.
Ah, il y a des passages formidables.
Et c'était, oui, et c'était des femmes incroyables. Et elles battaient leur mari. Alors qu'on sait que la violence conjugale, c'est plutôt le fait des hommes, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, évidemment, elles ne les battaient pas à mort. Mais dès que leur mari disait quelque chose, quand elles étaient mariées, parce que ma tante Lucienne n'a pas été mariée, elle est restée vieille fille, comme on dit, toute sa vie. Elle est restée chez sa mère toute sa vie aussi. Puis après, quand sa mère est morte, elle s'est en allée avec son frère habiter chez ma tante, qui, elle, n'avait pas d'enfant, ma tante Irma. Et alors donc, ces femmes-là étaient... Elles arrivaient, le mari disait quelque chose, plaque, une claque par derrière la tête. Et il disait rien. Il devait les aimer quand même.
Denise, on va marquer une première petite pause musicale. Je rappelle donc que c'est... La journaliste et écrivain québécoise Denise Bombardier, qui est aujourd'hui à bord de Wagon Livre, et je suis heureux. Je suis très heureux, Denise. Je vous ai lu avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Je vous connaissais peu, mais je vous ai découverte vraiment dans cette autobiographie, Une vie sans peur et sans regret. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec notre invitée Denise Bombardier.
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont se débarrasser sur le violon. Sont américains et sont américains. La faute à qui donc? Dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada, des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand ils font de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudeau, pour de l'Amérique, que lui est leur grand-papa. Qui pensait peu, qui pensait pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains, et sont américaines. La faute à qui donc? Tous les Acadiens, les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et sont américaines. La faute à qui donc, la faute à Napoléon. Le coton c'est doux, c'est blanc, c'est chouette pour se mettre la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Puis s'en vont faire de la musique comme celle de Rufus Thibaudeau, pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça va changer depuis ce temps-là. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et sont américaines. La faute à qui donc? Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains et sont américaines. La faute à qui donc? La faute à Napoléon.
bosser 6 jours de fil pour une poignée de dollars dévalués. Ils montent dans la vieille Oldsmobile et foncent à la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudeau, et pour repeupler l'Amérique à la manière de grand-papa. Il n'y a plus que ça qui ne change pas.
Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains, sont américaines, la faute à qui l'on. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon. Sont américains, sont américaines, la faute à qui l'on, la faute à la voléa.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Denise Bombardier, tout va bien ?
Oui.
À bord de Wagon Livre sur Radionne pour une vie sans peur et sans regret. Alors, on a parlé de cette famille, on va essayer d'avancer un peu.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, il y a des femmes qui comptent beaucoup. Votre mère a beaucoup compté. Il y a Madame Audet, qui est cette professeure qui vous donnait...
Qui apprenait aux petits Canadiens français à dire « maman » et non pas « maman »,« Canada » et non pas « Canada ». Et ma mère voulait... Alors voilà, ce que j'ai hérité de ma mère, c'est l'héritage le plus précieux qu'elle m'a transmis, c'est qu'elle voulait que je m'instruise.
C'est important, la culture.
Et ma mère disait, oui, parce que vous savez, il n'y avait pas de livres dans la maison. Moi, je n'ai pas été élevée, il n'y avait pas de livres. Mon père avait rapporté de sa période... il a été officier dans la marine marchande avant de rencontrer ma mère. Il y avait 20 ans plus que ma mère. Et alors donc, il avait rapporté 2 dictionnaires Larousse. C'est tout ce qu'il y avait dans la maison. Mais dès que j'ai pu lire, ce que je faisais, je prenais c'était des gros dictionnaires, vous savez, et je lisais les mots et j'essayais de les apprendre par moi-même. Et ma mère m'encourageait à ça. Donc ma mère me disait, la vraie richesse, on n'a pas d'argent. Mais la vraie richesse, c'est de savoir des choses. Et elle allait plus loin, elle me disait, je le raconte, elle disait, les gens qui savent sont supérieurs aux autres. Elle ne voulait pas dire par là qu'il fallait qu'ils snobent les autres, ce n'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'ils ont quelque chose de précieux, plus précieux que l'argent, qui était une obsession pour mon père, et par extension pour ma mère aussi, parce que c'était constamment, fais attention, le beurre ça coûte 25 cents la livre, mange pas de beurre, fais attention, pas trop, bon. Et puis mon père, il cachait l'argent aussi, plutôt que de lui donner les sous pour...
Mais elle lui chipait un petit peu d'argent.
On faisait ça ensemble, parce que, avec les enfants, parce qu'ils mettaient ça dans les tringles, dans le long des murs.
Les
là.
Plaintes.
Les plaintes, pardon. Et là, ma mère prenait un couteau, très très mince, effilé, et puis on soulevait le papier. On y avait des dollars, il y avait des 2 dollars en papier à l'époque. On soulevait ça, c'était comme une course au trésor, presque à chaque semaine. Vous voyez dans quel monde de fou j'ai vécu quand même.
Alors revenons à Madame Audet.
Oui, alors revenons à Madame Audet.
Denise, en fait, vous avez remporté un concours de récitation.
Ah bah oui.
Vous pouvez nous la réciter, cette poésie, dont Mozart. Le titre est Mozart. Je l'ai là sous les yeux, là.
Oui.
C'est...
Mozart.
Vous en souvenez-vous ou avez-vous
juste le
besoin
début. Donnez-moi la première
Alors, le
phrase.
Début.
Où est-ce qu'il est?
Tout en haut de la page.
Devant le firmament qui fuit, Mozart, saisi par l'insomnie, avait écrit dans une nuit une adorable symphonie. Le sommeil avait dû sursoir jusqu'à la nouvelle aurore, si bien que vers 4 heures du soir, le maître dormait encore. Je l'ai par cœur, là, je vous le dis par cœur, vous le savez. Il dormait du sommeil pesant qu'une longue fatigue apporte, quand 2 amis, tout en causant, vinrent frapper à sa porte. Mozart ne les entendit pas. Le front courbé, la mine triste, ils retournèrent sur leurs pas sans avoir réveillé l'artiste. Et l'un d'eux dit à mi-voix, c'est vraiment la première fois que Mozart manque d'oreilles. Moi, j'avais 6 ans. Il n'y a pas besoin de vous dire que le verbe sursoir, je ne sais pas ce que c'est. Et ces mots-là, ce n'étaient pas des mots qui étaient les mots du vocabulaire de ma famille. Mais j'adorais ça.
Alors, il y a aussi une autre, il y a une religieuse qui a joué un rôle important parce que vous avez reçu une éducation catholique. Il faut aussi qu'on explique aux Françaises et Français qui nous écoutent
oui.
que le Québec qui vous a vu naître, c'est un Québec très catholique où la religion avait un pouvoir écrasant.
Oh ben la religion contrôlait tout, il contrôlait l'Église, contrôlait le système scolaire, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation.
Ben, vous écrivez, c'est au chapitre 26, Denise, « Sans caricaturer la réalité, on peut affirmer que le Québec d'avant 1960 était à la fois l'Irlande, l'Italie et peut-être la Bretagne, voire d'autres régions sous l'emprise de l'Église de Rome. »
Mais c'est sûr, l'Université de Montréal, qui est une grande université, était une université pontificale. Le recteur était nommé par Rome. C'était un prélat domestique ou un monseigneur qu'on nommait à l'Université de Montréal. Et c'est sûr, on n'a pas idée. Tous les hôpitaux étaient entre les mains des communautés religieuses. Je peux vous dire que c'était plus organisé que ça l'est maintenant. Mais ça, c'est une parenthèse. Et plus propre aussi. Tout le système d'éducation, tous les services sociaux, c'était dans les mains de l'Église. Et on avait un potentat, je l'appellerai notre potentat local, Maurice Duplessis, qui était premier ministre très conservateur du Québec, qui disait, moi, il s'en vantait, mais pas publiquement, moi, les évêques viennent manger dans ma main. Voilà, donc c'était l'alliance, n'est-ce pas, du clergé et du pouvoir politique.
Alors d'ailleurs, vous avez écrit en 85, c'est chez Robert Laffont, un roman intitulé « L'éducation à l'eau bénite ».
Une enfance à l'eau bénite.
L'enfance
oui,
à l'eau bénite.
Oui, c'était aux éditions du Seuil. C'était aux éditions du Seuil. C'était mon premier roman.
Je me trompe sur toute la ligne alors. Donc c'est une enfance à l'eau bénite.
Une enfance à l'eau bénite. Oui, j'ai raconté au quotidien ce que c'était que cette enfance à l'eau bénite. Mais souvenez-vous que moi, mon père, il descendait les curés. Il disait que c'était tous des crétins qui nous apprenaient des conneries et hurlaient contre l'Église. Et je suis bien obligée à ce moment. Au cours de ma vie, je me suis bien rendu compte qu'il faisait une analyse qui était assez juste du Québec, de ce moment-là. Un Québec ignorant, maintenu dans l'ignorance, à travers les bons useries, puis toute cette éducation au péché mortel qui nous empêchait de fonctionner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au Québec, vous dites le mot religion encore aujourd'hui, il y a des gens qui dégainent. Et on ne peut pas comprendre le Québec d'aujourd'hui si on ne sait pas que le Québec a subi, durant au moins près de 100 ans, cette force de l'Église. Alors, imaginez, et là, j'ouvre une parenthèse, imaginez, depuis à peu près 30 ans, on a des immigrants et on a maintenant 200 000 musulmans au Québec, dont... Évidemment, une proportion, c'est pas la majorité du tout, mais des femmes voilées. Hein? On voit dans les rues de Montréal, maintenant, les femmes sont voilées. Il y a des revendications pour ça. Imaginez-vous pour nous, les catholiques, qui nous sommes débarrassés de l'Église. Ça vous a pris 100 ans pour faire votre évolution, plus même. Hein? Eh bien, nous, on a fait ça en l'espace de 15 ans. À partir de 1960. En 60, il y avait 85% des Québécois, on va les appeler les Canadiens français pour ne pas confondre avec les anglophones, qui étaient pratiquants, qui allaient à l'église tous les dimanches. 15 ans après, il n'y en avait plus que 40%, et maintenant, il n'y en a même pas 5%.
Et c'est donc ce qu'on appelle la révolution tranquille.
C'est une des expressions de la révolution tranquille, oui.
Donc c'est la décléricalisation du Québec, déchristianisation...
De toutes les institutions d'ailleurs, oui. N'est-ce pas?
L'université notamment.
On oui. s'est débarrassé, oui, bien sûr, et on a créé un ministère de l'éducation, parce que l'Église était contre la création d'un ministère de l'éducation. Donc mais l'Église, contrairement à ailleurs, l'Église s'est laissée faire en quelque sorte. Il y a une proportion très importante de clercs qui ont quitté les ordres à ce moment-là. Je le raconte dans mon livre aussi, quand je parle de mes amours. Moi, j'ai rencontré un homme
Ce fameux prêtre défroqué
oui.
que vous...
Oui, enfin, il est défroqué. Il a quitté l'Église pour moi, oui.
C'était foudroyant. Vous parlez d'amour foudroyant.
Ah, ça a été la passion de mes 20 ans. Mais ne vous étonnez pas, moi, j'ai déjà été mystique. Mais quand il m'a dit qu'il quittait l'Église, il m'a téléphoné, il m'a dit « je suis allé voir l'évêque ». Et il m'a dit « mais je ne veux pas, je ne veux absolument pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit ». Parce que jusque-là, nos amours étaient des amours platoniques, quand même. Et lui a quitté. Après, c'est bon. Alors donc, ça a été la passion de mes 20 ans. Mais ce n'est pas par hasard que... Parce que c'est sûr qu'il y avait, qu'à ce moment-là, la plupart des hommes qui sont sortis, qui ont quitté la prêtrise ou des religieuses, ils se sont mariés. Les religieuses comme les prêtres. Mais, et puis, ils sont devenus les fonctionnaires du ministère de l'Éducation parce qu'ils étaient formés. Parce que les plus instruits dans la société québécoise, c'était quoi? Les docteurs. On avait trois choses. Les docteurs pour le corps, les prêtres pour l'âme, et puis les avocats pour quand on était méchant. Voilà.
D'ailleurs, vous parlez d'éducation, de culture. Il y a un homme politique québécois qui vous a proposé un poste de ministre de
oui,
la culture.
C'est le premier ministre Jacques Parizeau. Oui, il m'a proposé le ministère de la culture parce que il voulait faire un changement dans son gouvernement. J'ai dit non. Il m'a proposé la direction de Télé-Québec. J'ai dit non. Je suis pas faite pour ça.
Politique. Si, vous avez commenté la politique, vous avez fait bien sûr beaucoup d'émissions politiques, culturelles aussi.
Oui.
Mais la politique, faire de la politique, ça...
Je l'ai été au début, à 20 ans,
vous
comme
avez
il
été
fallait.
Militante.
J'ai été militante pour l'indépendance du Québec, oui. Et après, je suis devenue journaliste. Et vous savez, c'est la conception anglo-saxonne du journalisme. On a de la distance. On ne peut pas être militant et être journaliste. Voilà. On peut être éditorialiste. Moi, maintenant, je suis chroniqueur politique. C'est sûr que je donne mon opinion, mais c'est au bout d'une vie et d'une expérience. Maintenant, les chroniqueurs politiques puis les éditorialistes, ils ont 22 ans, puis ils ont 25 ans, et puis à 40 ans, ils dirigent des vieux pays comme la France. Vous voyez, ça a changé quand même. Avant, on pensait que ça prenait beaucoup d'expérience de vie, une épaisseur de vie, quoi, pour comprendre les choses. Mais j'ai senti très rapidement que c'était pas pour moi. J'avais besoin de cette distance, mais... Cette distance que j'ai, quand vous m'avez présenté, vous avez dit, bon, j'étais... C'est sûr que les hommes politiques, ils n'avaient pas peur de moi.
J'ai dit controversée, enfin, intimidante et bagarreuse.
Ouais, je ne suis pas intimidante. Je me suis rendu compte, je n'aimais pas l'idée que j'intimide les gens. Mais c'est parce que les gens, je vais vous dire, au Québec, quelqu'un qui contrôle la parole, surtout si c'est une femme, c'est vrai que ça intimide. Ils ont l'impression qu'on n'est pas à leur hauteur, voilà. Mais ça, ça ne me prend pas de temps pour les dégeler, moi, quand je leur parle. Ils voient bien, parce que moi...
Les hommes vous craignent, ils se méfient quand même de la bombarde.
Oui.
Parce que, par exemple, c'est avec M. Trudeau, donc, qui est le père de l'actuel...
Non, le vrai. Le vrai, c'était Pierre-Éliott Trudeau, le grand politique, c'était lui. Son voilà. fils, c'est
son
une
fils...
pâle copie.
Bon, ouais. Mais Trudeau, à un moment, vous êtes... Alors, je ne sais plus en quelle année, là, Denise, il faut que vous m'aidiez, mais je me souviens de cette scène. Il est... en studio avec vous,
oui.
Et il vous taquine avant l'émission, parce que vous êtes physiquement proche, et il vous dit, je pourrais vous faire du genou.
À 5 secondes, parce qu'il y avait le régisseur qui nous donnait le décompte, il dit, cher Denis, je pourrais vous faire du genou.
Et moi, mais c'était taquin.
Et moi, je dis, essayez toujours, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, bonsoir, ce soir, mon invité, le Premier ministre. Imaginez de nos jours, les jeunes femmes de nos jours, et au Québec, ce serait immédiatement... qui sortirait de l'antenne et qui dénoncerait ce harcèlement sexuel. Mais moi, je savais bien que c'était pas ça. C'est sûr qu'il voulait me déstabiliser, ça c'est clair. Mais enfin, moi si je m'étais plainte, si tout au cours de ma carrière, quand les gens m'ont traité de mal baisé, parce qu'une femme qui a de la crédibilité, c'est fou comme les hommes sont portés à tout de suite à faire référence à...
Je crois que c'est Philippe Solers qui a dit ça de vous.
Ah oui, mais d'autres.
Il y en a d'autres. Oh là, pauvre Denise.
Et en France, quand je me suis coltaillée à Matzneff, bien sûr, on pourra y revenir si vous voulez. Surtout qu'après ça, j'étais cette fois-là, la seule fois où le président Mitterrand, qui me recevait parfois, j'ai été convoquée à l'Élysée après. On en reparlera. Mais c'est sûr que si j'étais sortie, je m'étais mise à pleurer à chaque fois que mes camarades n'étaient pas gentils avec moi. Puis ils n'étaient pas gentils, parce que je prenais littéralement leur place aussi. Et moi, c'est ça mon message aux femmes, de ne pas avoir peur et de ne pas jouer à la victime. Je ne serais pas là pour vous parler si j'avais décidé que j'étais une victime. D'abord, si j'avais décidé que j'étais la victime de mon père et que ma vie était terminée parce que tous les hommes étaient comme lui, j'aurais pas non plus accédé à ce qui a été le plus fondamental dans ma vie, c'est-à-dire mes amours, quoi.
Et votre liberté.
Et ma liberté.
Ça, c'est fondamental, me semble-t-il.
Oui, mais ma liberté, je me rends compte qu'elle vient de mon père, quelque part. Vous voyez, je suis capable à ce moment-ci, mais ça fait quand même un certain nombre d'années, de dire que ça, c'est l'héritage de mon père. Parce qu'avant, mon père, je le diabolisais absolument et je ne voulais y accorder aucune influence dans ma vie, alors que ma vie a été, au fond, marquée par lui, bien plus que par ma mère. finalement.
Je vais revenir sur un de vos collègues de travail à Radio-Canada, c'est Simon Durivage.
Et je l'ai nommé.
Alors celui-ci, pas très...
Terrible.
Grossier, vulgaire.
Terriblement grossier, tout le temps.
Là, vous avez souffert quand même en travaillant avec ce personnage.
Ah oui, j'ai pas pu tenir plus d'un an. Parce que comme mon père me traitait de ma chienne, c'est comme ça qu'il parlait.
Ah oui.
Mais oui, si vous voulez me déstabiliser, plus maintenant, là, parce que là, je suis devenue... je suis trop blindée, mais... Et encore, la grossièreté me déstabilise beaucoup. C'est pour ça que Trump me dégoûte. Littéralement, il me dégoûte.
Oui, justement, avec ce...
À cause de ça.
Oui,
ouais, à cause de, évidemment, tout le reste, mais...
C'est vrai qu'il a dit des choses terribles, par exemple. Je suis navré de le dire. Moi, j'étais très surpris en disant qu'il chopait les femmes par la chatte.
Oui, prenait... c'est ça.
Ah, c'est très vulgaire. Enfin, en France, on imagine un homme politique dire ça, mais c'est scandaleux.
Faut de pussy, il a dit, oui. Et il a dit après, il fait des blagues... C'est de la grossièreté absolue. Ça me déstabilise.
C'est très américain, vous croyez? Est-ce que l'Amérique n'est pas un peu vulgaire?
Oh non, arrêtez, il y a des Français qui sont très très grossiers aussi.
Exemple?
Ben, je ne vais pas vous les nommer quand même.
Allez!
Non, j'ai vu ça quand même. Ils ne font pas ça de tout à fait de la même façon, disons.
Parce qu'effectivement...
Ils sont machos. Ils sont vraiment machos. Moi, j'avais oublié, encore cette semaine, j'en ai rencontré un, et je me suis dit, mais il est bien macho. C'est parce qu'au Québec, les hommes, ils ne sont plus comme ça du tout. Même quand ils le sont, ils le cachent au moins. Mais ici, pas du tout, ça marche encore. Bah, d'ailleurs, vous avez vu ces confrères qui, sur leur blog, ont insulté les femmes journalistes, n'est-ce pas? Il y a eu récemment, c'était dans Le Monde, là, il y a 900 journalistes qui ont protesté. C'était des gens de Libération, c'était quelques garçons et qui tenaient des propos dégoûtants sur les femmes. Vous voyez? Ça, chez nous, ça passe plus.
Denise?
Oui.
On passe une pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler avec vous donc de Une vie sans peur et sans regret. À tout de suite, Denise.
Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait. S'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent. Les portes laissent entrer les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où chantant battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs. Les armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses, commencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Une vie sans peur et sans regret, c'est le titre des mémoires de Denise Bombardier aux éditions Plomb. Alors, Denise, on a bien compris quand même que les hommes vous les dressez, mais vous les aimez, hein? Il y en a, vous êtes une croqueuse d'hommes. Ah non, hein. Il y en a des hommes dans votre vie.
Moi, je ne suis pas l'amie des féministes de mon pays, des féministes radicales maintenant, là. Parce que je me porte à la défense. Le Québec est un matriarcat. Et les hommes ont été fragilisés. Et j'ai un fils, il ne faut pas oublier ça aussi. Je suis la mère d'un fils, moi. Alors donc,
est-ce que vous êtes une bonne mère, Denise?
Ben, mon fils vous le dira. Je suis une mère passionnée. Et comme il est passionné aussi... Disons que nos relations sont intenses, mais c'est un homme, il est devenu, c'est un homme formidable, c'est une vieille âme. Je raconte dans mon livre, même à Paris, quand j'étais malheureuse et que c'est lui qui a dit « Maman, on ne peut pas rester là, on ne peut pas rester », parce que j'étais venue vivre avec l'ambassadeur du Canada, qui est devenu le premier ministre après. Il a dit « Maman, il est plus gentil avec moi qu'avec toi, il faut partir de l'ambassade ». Il avait 9 ans. Il a compris ça. Vous voyez un peu la relation que j'ai avec lui. Et c'est un très bon cinéaste.
C'est ça, Guillaume fait une carrière de cinéaste.
Oui, absolument.
Hein, c'est
oui,
ça.
Oui. Et il m'a donné une petite fille qui est le bonheur de ma vie, qui s'appelle Rose, et qui est aussi intense que sa grand-mère.
Et que vous saluez dans votre autobiographie. Alors, Denise, on va parler de l'émission Apostrophe, l'émission oui. de Bernard Pivot. Vous y avez participé 9 fois. La première fois, c'était en 85. Ouais. Ben, c'était pour votre roman.
Voilà.
On est d'accord. Vous y revenez. Le 2 mars 1990, d'ailleurs j'ai revu votre affrontement avec Gabriel Matzneff qui est invité. Alors il y a Catherine Hermary-Vieille, il y a Alexandre Jardin, le jeune Alexandre Jardin, et Gabriel Matzneff, bon, un grand écrivain quand même, non, faut pas le dire, auteur de « Mes amours décomposés » aux éditions Gallimard. D'ailleurs c'est un emprunt à Baudelaire, hein, « Mes amours décomposés ». Bon. Et là, au cours de cette émission, Denis, je vous laisse raconter ce qui se passe.
Eh bien, tout simplement qu'il racontait comment il sodomisait les petites filles de 14 ans, puis les petits garçons aussi, mais enfin, c'était... Et il racontait ça parce que c'était pas un roman, là. On ne parle pas d'un roman, on parle d'un journal. Et il disait, à un moment donné, le 14 mars, je vais chercher Nathalie, supposons Nathalie, je vais l'aller chercher au lycée. Elle a 15 ans, nous allons prendre un verre à la coupole, son petit cul imberbe m'attire, alors je l'amène chez moi et je la sodomise proprement. Le lendemain midi, déjeuner à l'Élysée avec d'autres écrivains, parce que vous savez que vos présidents font des dîners d'écrivains, des déjeuners d'écrivains, ce qui est très bien. Le président Mitterrand, il racontait que le président Mitterrand s'approchant de leur table, s'adresse à lui et lui dit « Cher Matzneff, continuez votre bon travail ». Or, on ne sait pas si le travail, c'est d'avoir sodomisé la petite la veille ou si ce sont ses écrits. Donc, je savais, je l'ai su tout de suite, que l'Élysée était dans l'eau chaude, là, parce qu'il voulait se dégager de cette position-là, de Matzneff. Et j'ai été, cette fois-là, c'est la seule fois, parce que moi j'ai connu le président Mitterrand à l'International Socialiste à Vancouver avant,
en 78,
quelques années avant,
je crois,
où je l'avais interviewé,
fois,
c'est ça. Et alors donc, j'ai été convoquée et le président Mitterrand m'a demandé, il a commencé par parler de comment vont vos amis de droite à Paris, et tout à coup, il m'a dit ce qu'il voulait que je dise, et vous pouvez le...
Et il vous a dit... Mais, chère amie, vous qui êtes une observatrice affectueuse et sévère de notre pays, vous connaissez le milieu parisien obsédé par la peur de n'être jamais assez libéré et tolérant vis-à-vis des écarts de conduite douteux et choquants. La France n'est pas Matzneff, chère Denise Bombardier.
Voilà ce qu'il m'a dit. Et évidemment, ça s'est su. Et le lendemain, ils ont fait un communiqué à l'AFP. Le lendemain, le Monde choisissait son camp. Le Monde a écrit l'Élysée choisit son camp, celui de Bombardier.
Mais alors, suite effectivement à votre intervention sur le plateau d'Apostrophe, alors Jacques Lanzmann vous a décrit telle une mégère comme on n'en fait plus. Josiane Savigno, qui s'occupait du Monde des livres, vous a aussi descendu en flèche, je crois, sur un...
Dans le même papier, elle a écrit un article sur lui, L'homme qui aime l'amour, et après, c'était sur mon livre, Tremblement de cœur, c'était une histoire...
Qu'elle a démolie.
Ah, Seigneur, oui.
Et puis alors Philippe Solers qui a dit que vous étiez une mal baisée.
Voilà. Et d'ailleurs, Lanzmann avait ajouté que la Frigide retourne sur ses banquilles, se geler le cul. Voilà ce qu'il avait écrit dans Libération. Alors c'était charmant, mais ce n'est pas la France que j'aime. Mais la France que j'aime, je l'aime depuis que je suis toute petite.
Alors, la France,
j'ai passé la moitié de ma vie en France.
Oui, Denise, il faut absolument qu'on en parle et on va manquer de temps. Ah. Vous découvrez la France, votre premier voyage en France. Oui. Dans ce vieux pays, c'est en 1968, au moment des événements.
Absolument.
Vous arrivez en France à ce moment-là.
Je ne peux pas atterrir en France parce qu'il y a grève. Alors, on atterrit à Bruxelles. Donc, on prend une voiture et je traverse la frontière. Et en traversant la frontière, j'étais avec, à ce moment-là, H, celui...
Le prêtre défroqué.
Oui. Je lui ai dit, tu arrêtes tout de suite. Je suis descendu de la voiture.
Ah oui, parce que là, vous avez fait quelque chose qui nous surprend, mais c'est touchant.
J'ai baisé le sol français.
Oui. Comme le pape
après, parfois. Oui, il faisait ça. Parce que pour moi, c'était... Mais là, je vais me mettre à pleurer. Alors,
oui,
donc, on va continuer.
Vous écrivez « Ma France, pays immuable et mythique oui. ». Et donc, c'est page 205, vous écrivez « Je me suis agenouillé, j'ai baisé le sol, vous avez baisé le sol
oui.
de France ».
Je suis de culture religieuse et c'est une culture de... J'ai le sens du sacré, j'ai le sens de... Et voilà. Et puis, j'ai vu la France depuis ce temps-là. Oui. Je suis revenue, j'ai fait mon doctorat ici. Après, je suis venue vivre à Paris. Je venais 4-5 fois par an. Et j'ai vu la France.
Vous avez vécu 3 ans. Enfin, déjà, 71-74,
oui.
Vous vous installez avec Claude Sylvestre. C'est votre premier mari ?
Non, c'est le deuxième.
Et puis, vous avez préparé donc, une thèse de doctorat sur l'ORTF, sous la direction de Jean Cazeneuve. Denise, à propos de mai 68... Et je vais vous inviter aussi à vous prononcer sur l'actualité française actuelle, enfin plus récente, vous avez deviné. Vous écrivez, à propos de mai 68 à Paris, « J'avais été apeuré par les barricades et les casseurs qui, au propre comme au figuré, déboulonnaient à ma consternation les trésors, richesses et symboles de la culture que le reste de la planète enviait à la France. » La France des outrances, de la tentation anarchique, de la rancœur et de la diabolisation n'était pas celle que j'aimais. Est-ce que la France n'est pas retombée un peu dans ce cycle d'agitation populaire ?
Le premier samedi de ces manifestations, j'étais avec mon mari maintenant, mon anglais, James, et spécialiste du 18e siècle français, le plus francophile des Anglais. Nous sommes assis... tous les deux devant la télé, et nous arrivent les images des gilets jaunes sur les Champs-Élysées et l'attaque à l'étoile. Et là, tout à coup, c'est quand on a vu le buste de Marianne, ils l'avaient jeté par terre, ils avaient donné un coup de poing dedans, le buste de Marianne, avec la moitié de la figure du buste arrachée. J'ai ressenti la même douleur quelque part. Je me suis tournée vers mon mari. Vous savez, les Anglais, ça pleure pas. C'est pas des braillards, les Anglais. Ils vous braillent pas devant vous. Je me suis retournée devant mon mari et je l'ai regardé. Et il avait les larmes aux yeux. Et après, vous voyez ce qui se passe. Je veux dire, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir dans la rue. La démocratie, c'est aussi de pouvoir descendre dans la rue pour exprimer des revendications. Ça, c'est fondamental. Mais ce qui se passe, on ne sait pas où ça va mener. Et surtout, vous savez, quand les gens ne sont pas... Ils n'ont pas d'interlocuteurs, ils n'ont pas de gens qui sont désignés pour parler. Chacun dit ce qu'il veut. Et là, avec ce qui se passe, on ne sait plus où ça s'en va. Et la France est un pays encore où les gens ont tellement de liberté et puis de droits et aussi un système d'éducation, un système de santé, une ouverture aux autres. C'est terrible. Mais il y a à l'intérieur de la France, plus que quand j'y étais d'ailleurs, des gens qui vivent en France et qui détestent la France. La haine de la France, elle est vécue de l'intérieur. Et ça, c'est terrible.
Mais quand vous dites des gens qui vivent en France et qui détestent la France, vous parlez de certains Français de souche ou de Français qui ont été mal assimilés à la communauté
nationale ?
Des
Français qui ne veulent pas, qui sont mal assimilés.
C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que cette phrase m'avait surpris, je m'étais dit, il faut absolument que j'en parle avec Denise.
Oui, c'est ça. Mais ceux qui rêvent d'apocalypse, de toutes les façons, qu'ils soient de souche ou non, ceux qui rêvent d'apocalypse pour la France sont des gens qui ont la haine de la France, enfin la haine d'eux-mêmes alors, mais aussi la haine de la France. Et moi, je peux pas. C'est sûr que quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, ça, c'est pas vrai qu'on peut continuer durant des semaines et des mois avec toutes les fins de semaine avec des gens. En fin de semaine, moi, j'habite mon hôtel près du boulevard Raspail, juste à côté de Raspail, ils étaient là. Et sans que ça s'est passé très rapidement. Ils ont sorti des bâtons derrière, dans des sacs à dos. Ils ont démoli l'abribus, comme ça. Vous me direz, c'est juste un abribus. Mais quand j'ai vu les vitrines de magasins avec des propos antisémites dans les devantures et tout, mais c'est terrible. C'est toute la ce qu'il y a de plus noir, ce qu'il y a de plus horrible dans la nature humaine qui s'exprime aussi à travers ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont... Puis la petite classe moyenne n'en arrache pas, mais elle en arrache partout. Il fallait y penser quand on voulait faire la mondialisation, que ça donnerait peut-être ça aussi.
Est-ce que la France est le seul pays au monde à être sur une mauvaise pente? Est-ce que j'ai l'impression que la France est sur une mauvaise pente?
Oui, mais plus qu'ailleurs, de façon justement plus hystérique qu'ailleurs, je dirais. Parce que c'est sûr que on comprend pas trop bien ce qui se passe et on sait bien que la Terre est qu'est-ce qui contrôle là, qui contrôle maintenant, dans combien de temps la Chine et l'Inde et la Russie vont acheter tout ce qu'on possède.
Avoir écrit ces mémoires aussi, vous rendez beaucoup hommage à la France. Hein, quand on est français et qu'on vous lit, on est fier de se dire...
Mais bien sûr. Comme je dis, moi, j'aime pas seulement la France. J'aime les Français parce que les Français, c'est eux qui ont fait la France tout de même. Ce pays qui est si formidable, ça a été construit par des Français quand même. Hein?
Et vous parlez du respect de la langue française. Il y a une réflexion que j'ai beaucoup appréciée. Et je crois que c'est aussi un héritage de votre maman qui disait qu'il fallait bien choisir les mots, respecter les mots, bien les prononcer, bien articuler. Et vous écrivez, Denise, dans votre autobiographie, une phrase qui me touche beaucoup, parce que je pense que c'est très très vrai. Vous dites, celui qui utilise bien la langue, qui la respecte, s'aime aussi lui-même et se respecte lui-même.
Bien sûr, d'ailleurs,
je trouve que c'est très vrai.
Et les religieuses nous disaient à l'école, mes filles, pour bien se respecter, il faut respecter la langue. Et pour bien se respecter, il faut l'écrire sans faute. Et c'est pour ça qu'on faisait une dictée par jour. Maintenant, je pense qu'ils n'en font plus de dictée.
Ça va revenir, paraît-il, au programme.
Ah oui, j'ai vu, vous avez un ministre d'éducation qui pense ça, tant mieux.
En tout cas, des interviews, vous en avez fait un bon millier, des écrivains, des cinéastes.
Plus qu'un millier. Ah oui, c'est sûr.
Alors, j'ai relevé quelques noms. L'abbé Pierre, vous aviez interviewé Couve de Murville, qui en plus, d'ailleurs, en vous voyant arriver, pensait que vous étiez une technicienne. Il ne pensait pas qu'une femme puisse être...
Oui, votre journaliste, il m'a dit. Ça, c'est en 70. C'était quand j'étais accueillie pour la première fois.
Raymond Barre, Rocard, Georges Marchais, des comédiennes comme Michel Morgan, Sophia Loren, Simone Signoret, Yves Montand, et puis tous les écrivains.
Oui, c'est sûr.
Vous vous dites moi, à mon petit niveau, je fais des interviews, j'en suis déjà immensément heureux, mais vous, ça a été toute votre vie, c'est magique d'avoir rencontré ces êtres aussi brillants qui ont pris des positions critiquables ou pas en politique, mais des gens qui ont pris des risques, qui ont montré leur talent et qui l'ont partagé, ça doit être exceptionnel.
Et au fond, tous ces gens-là, quand on les interviewe et qu'on les respecte et qu'on les admire, il ne faut pas nécessairement les connaître dans leur vie personnelle. Parce que là, vous pouvez être déçus. Ça m'est arrivé avec quelques écrivains, ça. Qui étaient des salauds dans la vie. Mais ça, on ne faut pas le savoir quand on a adoré leurs œuvres. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, comme tout se sait, il n'y a plus personne qui n'est pas susceptible, comme la pureté n'existe pas beaucoup, il n'y a plus personne qui n'est pas susceptible d'être déboulonné à un moment donné ou à un autre. Surtout ceux qui défendent des positions un peu particulières ou qui sont moralisateurs dans leur façon ou qui sont simplement paternalistes dans leur façon de parler des autres.
En tout cas, Denise, vous écrivez, c'est page 231, « Un bon intervieweur est celui qui pose la bonne question de départ à un invité, laquelle lui accorde de la crédibilité, donnant à l'invité la possibilité de confier ce qu'il tait à tant d'autres. L'entretien télévisé est un art avant d'être un combat ou un affrontement. » Une vision très, très martiale, là, non ?
Ah, mais c'est ce que je crois. Oui, c'est ce que je crois. Mais maintenant, ce sont des en général, sauf là. Et en plus, vous avez lu le livre et tout, vous avez fait tous vos devoirs. Et puis, c'est une conversation qu'on a entre nous.
Mais on pourrait la prolonger des heures et des heures, je pense.
Mais c'est sûr que maintenant, les entrevues, c'est quelques minutes, n'est-ce pas? Et puis, il faut absolument puncher, comme ils disent, et puis trouver la phrase qui choque et tout. Enfin, c'est... Il n'y a plus de contenu, quoi.
Alors, on termine avec quelques expressions qui m'ont plu, qui sont, à mon avis, des expressions québécoises. Avoir un chume... Un chum.
Ah, un
savoir
chum.
Un petit copain, c'est ça?
Oui.
Alors, que sont des mangeuses de balustrade?
Les mangeuses de balustrade, mais c'est ceux qui sont trop pieux.
Nous, on dit parce que la balustrade... des grenouilles de bénitier.
Oui, vous dites des grenouilles de bénitier, nous, on dit des mangeuses de balustrade.
Alors, pleuvoir à boire debout, c'est formidable.
C'est beau, hein?
Ah, oui. Ah, vous l'utilisez, l'expression pleuvoir à boire debout. Oui. Alors là, ce n'est pas une expression québécoise, mais il y a un moment, il me semble que vous recevez en France de la reliche sucrée. C'est quoi de la reliche ou de la reliche?
La reliche, c'est du concombre. C'est de la confiture de concombre, mais pas salée, sucrée. Mais ça, c'est avec ça qu'on mange les hot dogs. Moi, je mange un hot dog ou un hamburger chez nous, seulement si j'ai du reliche ou de la moutarde. Oui.
Et donc, finalement, des Québécois, on pourrait reprendre la phrase de René Lévesque, celle du 15 novembre 76, quand il dit « on n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple ».
Je n'en suis pas sûre. Deux fois, on a dit non à l'indépendance du Québec. Et maintenant, la démographie étant ce qu'elle est, ça, on ne pourrait plus jamais, puisque tous ceux qui débarquent chez nous, et on a besoin beaucoup, on a besoin d'immigrants, mais ils ne vont pas faire le combat pour la langue française. En général, ce n'est pas leur langue de départ. Puis ils ne vont pas se battre pour la culture française telle qu'on a réussi à la faire survivre et à la faire vivre avec enthousiasme et parfois de façon jubilatoire, comme tous nos grands chanteurs les années 60 et tout. Je ne suis pas sûre de ça du tout.
Bon, on n'a pas parlé du joual, on n'a pas le temps, mais
non.
Une vie sans peur et sans regret. Denise, je suis navré, je vais peut-être un peu vous blesser, mais je dirais le jour où j'apprendrai votre disparition, mais je peux mourir avant vous, bien sûr. Et dans la presse, on mettra « Disparition de Denise Bombardier, une vie sans peur et sans regret ». Et là, il y aura votre nécrologie, ça vous conviendrait comme titre? Qu'on le reprenne, le titre des mémoires?
Oui, mais attendez, moi je ne
pense pas. C'est pas définitif, il y aura peut-être un deuxième tome.
Ah non, quand même pas. Ah non, ça a été très éprouvant. Parce que quand vous écrivez comme je l'ai fait, pour vrai, les émotions qui sont là, elles sont ressenties. Quand j'ai eu... Moi, je me suis fait agresser sexuellement par un réalisateur,
oui,
j'avais 12 ans.
Oui, vous parlez à 12 ans à Radio-Canada.
Quand tu l'écris, tu ressens, tu te souviens exactement de ce qui s'est passé. Tout ce que... La façon dont mon père se comportait, la façon dont j'étais, même au cours de ma carrière et tous les gens qui m'ont blessé. J'ai tout ressenti ça. J'ai ressenti aussi les grandes joies que j'ai racontées aussi. Donc, mais ça a été quand même une expérience éprouvante.
Merci Denise Bombardier, donc je ne saurais que trop conseiller à celles et ceux qui ont suivi cet entretien et qui veulent découvrir qui est cette bagarreuse, cette intimidante, pas du tout
intimidante. Je suis pas intimidante.
Elle n'est pas du tout
pas
intimidante,
du tout.
Elle est adorable Denise, on a envie de la câliner, de lui faire des gros bisous. Une vie sans peur et sans regret, donc c'est votre autobiographie aux éditions Plon. Merci Denise d'avoir été aussi enthousiaste, d'avoir été vous-même devant ce micro.
Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.
Bon retour au Québec et merci Denise.
Merci.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.